quartier d'art. Une pérégrination à la découverte de lieux insolites et artistiques. Avec Julie Chaise-Martin. L'AA est une association artistique. L'AA, c'est aussi une ouverture, pratiquée dans un mur de clôture, pour prolonger ou ouvrir une perspective. L'AA, A-H-A-H, c'est évidemment aussi une interjection qui transcrit le rire, la joie, la surprise, l'admiration, la découverte. Autant de définitions que revendique l'association que je rencontre aujourd'hui. Je suis Cité Grisée au 4 dans le 11e arrondissement de Paris et j'ai la chance de découvrir un espace artistique qui présente des expositions, qui a une activité culturelle assez intense depuis 2018. C'est l'association LAA, alors ça s'écrit A-H-A-H. On va savoir dans quelques minutes ce que cela signifie puisque je me trouve aujourd'hui avec Marie Cantos, la directrice artistique de cette association. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors l'AA, c'est trois lieux d'abord, deux dans Paris et un à Ris-Orangis, on développera un petit peu après. Des expositions, une plateforme de diffusion et de promotion des artistes contemporains. Il y a 13 artistes qui sont membres de cette association. Une association qui est créée en 2017 et qui a ouvert au public, puisqu'on peut visiter, hein, évidemment ce sont des espaces de visite au public également, qui a ouvert en 2018. L'AA, on peut dire que c'est une plateforme, aujourd'hui c'est un mot qu'on emploie beaucoup hein, pour parler de toute forme d'art un petit peu hybride, une association qui soutient les artistes. Le terme de plateforme, ça vous convient ?
Oui, ce serait assez juste. On a toujours quelques difficultés à définir notre association, l'AA, puisque c'est L apostrophe A. H-A-H, qui est une jeune structure, une structure assez libre et très organique en fait dans sa manière de se développer, puisque comme vous l'avez dit, nous accompagnons un groupe d'artistes membres, nous accompagnons aussi d'autres artistes plus ponctuellement sur des projets de recherche, mais toujours au long cours et en évitant le one shot. Et cet accompagnement sur le long terme nous oblige, dans le bon sens du terme, à nous réinventer en permanence, à faire corps en fait avec les artistes, avec leurs pratiques, avec leurs doutes parfois, avec les revirements, et donc à inventer des modalités d'existence qui parfois varient du tout au tout. Alors bien sûr, il y a des constantes dans les outils que nous mettons en place, donc dans les différentes formes que peut avoir cette plateforme, mais néanmoins, il y a vraiment quelque chose de très organique dans la manière dont notre structure a été conçue et évolue en permanence.
Alors justement, la manière dont elle a été conçue, si je reviens un petit peu à la genèse qui n'est pas si loin, puisque ça fait à peu près 2 ans que vous existez, en fait c'est à l'initiative de 2 galeristes parisiennes. Alors pourquoi elles ont voulu finalement un petit peu s'extraire du monde des galeries pour créer cette association qui est donc une autre structure ?
Oui, là est née de la rencontre de Marine Veilleux et Pascaline Mullier qui, il y a plus de 4 ans maintenant, avaient toutes deux leur galerie rue de Montmorency face à face, l'une de l'autre. Et en discutant pour imaginer une manière de réinventer, réenchanter même le rapport à l'art et aux artistes, elles ont peu à peu imaginé ce projet d'une structure un petit peu différente. Donc elles ont fermé leur galerie et pendant une année, qui a été une année de préfiguration du projet, elles sont allées à la rencontre de différents acteurs et actrices du monde de l'art. Alors aussi bien d'autres galeristes que des gens qui dirigent des structures, que des artistes aussi beaucoup, pour faire une sorte d'audit, hein, on peut le dire, des besoins, des manques et de ce qu'on pourrait imaginer dans les interstices en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce désir de trouver de nouvelles formes, d'appréhender finalement le rapport à la création artistique, le rapport aux artistes. Il est d'ailleurs mentionné dans le dossier de presse qu'elles ont souhaité prendre du recul. Alors, je cite cette phrase parce que c'est une phrase qui je trouve, est intéressante. « Souhaiter prendre du recul face aux mutations qui s'opèrent dans le monde de l'art. Quelles sont ces mutations, finalement? Pourquoi, aujourd'hui, réinventer de nouvelles formules? Est-ce qu'il y a un essoufflement dans le monde de l'art où il faut aujourd'hui, finalement, penser à faire différemment ?»
Alors, je ne crois pas qu'il y ait un essoufflement. Au contraire, hein, il y a...
Sur les formes, je veux dire, sur la...
Je ne m'en suis pas certaine parce qu'il y a énormément de nouvelles structures et de formats hybrides qui émergent depuis quelque temps déjà. Donc, je parle
justement un essoufflement du monde un peu traditionnel des galeries.
Oui, et en même temps, je crois qu'il y a encore un besoin pour certains artistes, pour certains collectionneurs, pour un certain milieu de marché de l'art. Il y a encore besoin de ces galeries. Après, ce qui est certain, c'est que à l'heure actuelle, on observe un certain nombre de projets, de modalités d'accompagnement qui se font jour et qui sont peut-être plus en phase avec les besoins des artistes. En tout cas, c'était réellement le projet de l'AA de ne pas être figé, de proposer certes des essentiels aux artistes avec lesquels on s'engage pour un temps qui est assez long, hein, puisque c'est 5 ans minimum renouvelable éventuellement. Donc de proposer des expositions, un accompagnement intellectuel, une mise en réseau, mais également d'être en capacité de répondre à des demandes un peu inédites qui surgiraient, qu'on n'aurait d'ailleurs nous-mêmes pas du tout anticipées, et d'inventer avec eux d'autres outils, d'autres manières de diffuser le travail, d'autres manières aussi de le nourrir à travers des discussions, des échanges, des rencontres, des collaborations aussi beaucoup, puisque l'AA a à cœur de créer des ponts entre les disciplines. Notre programmation tente d'être la plus pluridisciplinaire possible, et puis de manière souterraine, sous-jacente, moins visible au public, on organise aussi des rencontres pour créer des projets transdisciplinaires entre nos artistes et puis d'autres créateurs ou d'autres chercheurs, chercheuses.
Oui, alors 5 ans, c'est un accompagnement assez long en effet pour chacun des artistes, 5 ans minimum, vous l'avez précisé. Est-ce qu'il y a aussi dans cette mise à disposition d'un soutien et d'un accompagnement un aspect financier ? Ou est-ce que vous êtes partenaire de structures aussi qui permettent aux artistes de se développer différemment ?
Alors, un peu tout à la fois. L'AA n'est pas un lieu de production. Contrairement aux centres d'art en France, à certaines résidences, il n'y a pas de production en direction d'œuvres, par exemple. Il n'y a pas non plus de bourse de recherche. Je pourrais énumérer tout ce qu'il n'y a pas. En revanche, ce qu'il y a, c'est une équipe qui est entièrement dédié aux artistes et qui va pouvoir pallier certains endroits. Alors être là pour assurer la communication, l'administratif parfois, pour aider en termes de logistique, comme je le disais tout à l'heure, pour imaginer des manières de diffuser le travail, de mettre en réseau. L'accompagnement est plus humain. On parlait d'outils tout à l'heure, hein, c'est tout à fait ça. Hein, l'AA développe des outils pour aider les artistes davantage que des moyens de production. Ce sont vraiment des moyens de diffusion et de promotion du travail. C'est ça le cœur des missions de l'AA en réalité.
Et par là, est-ce que c'est vraiment différent d'une galerie traditionnelle aujourd'hui ?
Oui, je pense, définitivement, puisque l'AA est complètement déchargée de l'aspect mercantile des choses. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les œuvres exposées à l'AA ne sont pas à vendre. Mais l'AA ne, ne, ne prend pas un pourcentage comme les autres galeries le font. Et puis surtout, ce n'est pas le cœur de ses activités. En revanche, on va bien évidemment essayer de développer des relations avec des collectionneurs et des collectionneuses. On va essayer de faire entrer nos artistes dans des collections publiques par des acquisitions. Voilà, tout ce travail qui est tout de même extrêmement important, puisque les artistes ont besoin de vivre. Et pour vivre, ils ont besoin de vendre. Entre autres. Donc oui, on fait ce travail-là. Néanmoins, contrairement à une galerie, on n'est pas asservi, hein, j'ai envie de dire, par ces nécessités mercantiles-là.
Et alors, depuis que vous existez, est-ce que vous avez eu des belles histoires, par exemple, justement, d'acquisition d'œuvres parmi vos artistes, par des institutions, des musées, des centres d'art, je ne sais pas, des fonds d'art contemporain?
Oui, 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 on a déjà pas mal de belles histoires. En tout cas, on a la confirmation tous les jours que le travail de petite fourmi paye et que tout ce que l'on met en place avec eux, ça fonctionne. Parce qu'il y a effectivement des acquisitions dans des collections publiques, mais il y a aussi des rencontres avec tel critique, tel commissaire, telle personne qui dirige un centre d'art, qui vont donner des dialogues intellectuels, des dialogues artistiques, qui vont ouvrir des possibles, qui parfois vont faire bouger même les lignes pour les artistes. Et ça, c'est aussi précieux qu'une acquisition dans la carrière d'un artiste. Évidemment, ça dépend de quel artiste on parle et à quel moment de sa carrière il est. Parce que toutes n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes envies.
Oui, alors en plus, vous avez donc 13 artistes. Je ne sais pas si c'est un chiffre maximum que vous pouvez gérer ou s'il y en aura peut-être un développement vers un chiffre un peu plus grand plus tard. En tout cas, c'est déjà bien. Et en fait, on peut dire qu'ils sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas forcément un choix sur l'émergence ou sur un mi-parcours. Ou, voilà, c'est quoi? C'est des coups de cœur? C'est des rencontres? La sélection se fait un petit peu comment?
Oui, alors il n'y a surtout pas d'accent porté sur l'émergence, comme vous l'avez bien noté. En fait, l'idée à l'AA, c'est de ménager du temps et de rendre du temps aux artistes. Donc, ça irait un petit peu à contre-courant de ce qu'on essaie de faire et de mettre en place que de s'intéresser uniquement à la jeune création et à cette notion d'émergence qui est effectivement très à la mode dans l'art contemporain. Donc il y a des artistes de tous âges, comme vous l'avez vu, à l'AA, et donc des gens qui sont à des moments de leur développement intellectuel et artistique et de leur carrière qui sont très différents.
Alors, il y a trois lieux d'exposition aussi, ça faut quand même le préciser. Ici, on est dans un des lieux qui est donc Cité Grisée dans le 11e. Il y a un autre lieu juste à côté qui s'appelle Moret, M-O-R-E-T, donc à deux rues, à deux pas. Enfin, je ne sais pas exactement, on va peut-être y aller tout à l'heure d'ailleurs ensemble, Marie. En tout cas, ça fait déjà deux lieux d'exposition, de présentation d'œuvres à Paris. Et un autre lieu qui est, alors en dehors de Paris, à Ris-Orangis, en banlieue, un autre lieu qui va peut-être bénéficier d'ailleurs de tout ce qui se prépare sur le Grand Paris, là, bientôt, je ne sais pas.
Alors, peut-être. je n'en suis pas certaine non plus, on verra, puisqu'en fait, on a deux lieux d'exposition à Paris, mais ce troisième lieu, en grande banlieue, à Ris-Orangis, ville importante, hein, ville de Derrida, ville d'art et de culture. Ce troisième lieu, il est pour l'heure vraiment dédié à nos artistes membres, puisqu'en fait, on y a cinq ateliers de taille très différente, des espaces communs, et puis un très grand espace qui est effectivement un espace d'exposition mais qui n'est pas encore ouvert au public. Alors il le sera peut-être un jour, en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais on prend le temps, encore une fois, de trouver le bon projet pour ce grand espace. Pour l'heure, il est très utile aux artistes puisqu'il leur permet de tester des choses, d'avoir un atelier encore plus grand que les autres ateliers et puis de tester des accrochages. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on caresse l'idée de pouvoir éventuellement y accueillir des expositions collectives orchestrées par nos artistes membres ou peut-être même des artistes run space qui viendraient de l'étranger faire des échanges comme ça. Mais qui va piano va sano.
Alors c'est super, ça, effectivement, des ateliers, donc on ne peut pas vraiment parler de résidence, mais c'est des mises à disposition d'ateliers pour vos artistes membres. Il y en a donc 5, vous l'avez précisé. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que autour de l'AA, donc vous l'avez un petit peu évoqué au fil de vos réponses, mais il faut vraiment mentionner qu'il y a une activité critique et éditoriale importante, c'est-à-dire que tous vos artistes bénéficient, et ça c'est parmi les outils que vous pouvez leur donner, d'articles critiques, de textes critiques, soit dans des revues, soit à l'occasion de leurs expositions, avec la participation de curateurs, de commissaires, de responsables culturels.
Oui, oui, tout à fait. C'était essentiel pour nous. En fait, on s'est rendu compte dès l'ouverture au public que, étant un lieu qui accompagne sur le long terme les artistes, on était de fait aussi un lieu qui accueille la recherche. Et donc, très rapidement, on a eu envie de muscler, si je puis dire, cette vocation de l'AA à développer et promouvoir aussi la recherche en art, qui est aussi, du coup, la recherche critique. Donc, chaque exposition donne lieu à une commande de texte, une critique, ou un écrivain ou une écrivaine issue d'un autre domaine. Hein. Ça pourrait très bien être un texte commandé à un scientifique ou une scientifique. Hein. C'est pas, y a pas d'axe envers la critique d'art en particulier, même si évidemment cela nous intéresse beaucoup. Ces commandes sont aussi l'occasion, hein, bien sûr, toujours de permettre à nos artistes de rencontrer de nouveaux interlocuteurs, interlocutrices, des gens qui vont leur répondre sur le travail et leur ouvrir parfois, encore une fois, de nouvelles perspectives, de nouveaux regards critiques. On fait également traduire beaucoup de ressources, de textes, soit du français vers l'anglais, soit des langues de nos artistes qui viennent de pays très divers vers le français. Il nous arrive de commander des textes ou des entretiens d'ailleurs, parce qu'on a commandé aussi pas mal d'entretiens, hors temps d'exposition aussi, hein, afin de permettre aux artistes de continuer à travailler intellectuellement et à échanger avec d'autres. Et puis on accueille très régulièrement aussi des lancements de revues, donc des revues qui sont soit des revues critiques, soit des revues transdisciplinaires littéraires. On a accueilli Possible, on va accueillir très prochainement la revue NZ. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire et qui nous tient à cœur. Et oui, ce lien à la recherche, il est très important.
Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver, si on a envie de lire ces textes et de les découvrir, cette activité critique de recherche? Est-ce que sur Internet, c'est possible?
Alors, on est en train de mettre tout cela en place. On est évidemment, comme toute jeune structure, on court parfois un petit peu après ce qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on lance pas mal de choses et là, on commence à pouvoir mettre en ligne les archives de tout ce qu'on a déjà fait depuis 2 ans. Donc, sur notre site internet, on a les documents Archives Expo qui sont dorénavant disponibles, qui nous permettent qui permettent au public de revoir les photographies des expositions passées de l'AA et de prendre connaissance des textes, hein, qui ont été écrits à cette occasion. Et puis on commence à mettre en ligne un certain nombre de choses sur YouTube, sur IGTV, des captations des très nombreux rendez-vous que l'on programme dans le cadre des expositions et puis entre les expositions, puisque comme vous le disiez, comme vous l'avez noté, on a une programmation culturelle qui est assez riche.
Oui, beaucoup de conférences, des brunchs aussi, des performances, des rencontres, voilà, donc c'est effectivement très riche. On retrouve tout ça, j'imagine, sur votre site internet. Des expos aussi, donc phares, je ne sais pas combien par an à peu près de grosses expos justement sur un artiste.
Alors, en fait, on a 3 temps programmatiques dédiés à nos artistes membres par an. Alors, selon les années, on va avoir des focus, donc qui sont des doubles expositions, comme celle qui est dans laquelle vous vous trouvez, qui est une double exposition de l'artiste membre Bernard Gaube. Et puis, il arrive aussi parfois qu'on ait deux expositions de nos artistes membres en parallèle. C'était le cas avant la fermeture de l'AA, avant la Covid, où par exemple on avait une exposition de Ranzan à Grisé et une exposition de Catherine Coscarou à Morée. Donc on a ces trois temps programmatiques, et puis entre ces temps viennent se lever un certain nombre de cartes blanches et de projets qui sont plus modestes et qui sont des projets en fait qui nous permettent d'inviter des gens qui ne sont pas membres de l'AA et d'ouvrir un petit peu le champ et de permettre encore une fois de créer des rencontres et des passerelles.
Alors on est à Paris, donc évidemment il y a des travaux, pas très loin. Là il y a effectivement un bruit qui a commencé à émerger en fond de notre conversation, Marie, mais bon, on est à la fin. Je vous remercie beaucoup, vous avez parlé de Bernard Gaube, donc justement je vais aller le rencontrer et puis on va un petit peu découvrir ensemble son exposition qui débute là cette mi-octobre jusqu'en décembre. Voilà, c'est un peintre. Je vais aller tout de suite à sa rencontre. Merci beaucoup, Marie Cantos. Vous êtes donc directrice artistique de l'AA, cette association que vous nous avez fait découvrir aujourd'hui. Merci.
Merci à vous, Julie.
Je me trouve dans le deuxième espace d'exposition de l'association LAA, donc on est rue Morée dans le 11e arrondissement, et à côté de moi Bernard Gaube, l'artiste peintre qui expose justement de cette mi-octobre jusqu'à fin décembre. Bonjour Bernard.
Bonjour, voilà, donc je m'appelle Bernard Gaube, je suis peintre et j'ai le plaisir et la chance d'exposer au sein de l'association LAA et dans le lieu de la Cité Grisée, qui est un très grand lieu, très lumineux. Nous avons fait comme choix cet an, petit Berguin et moi, d'y mettre un ensemble de tableaux dits en majesté. Tandis que dans l'espace de la rue Morée, alors on a fait un autre choix. Là, il y a tout un mur de dessins sur iPad qui ont été imprimés de façon numérique. Ce sont des dessins qui sont issus d'un travail sur iPad. Il y a aussi deux vidéos qui sont présentées, parce que en périphérie de ma pratique, littéralement picturale, je filme énormément. Et donc, j'aime beaucoup le montage. En fait, la question du montage est un lieu qui m'intéresse. Donc, le montage, l'association. Et là, il y a ce que je nomme une constellation de tableaux, qui est au fond un jeu d'association de tableaux et de mise en relation de différents tableaux, chaque tableau étant un fragment d'un tout. Et la question, c'est comment puis-je les mettre en relation les uns avec les autres.
Alors, vous avez cité Septembre Tiberghien, qui est donc votre curatrice sur cette exposition. Vous me parlez effectivement de cette constellation qui est cette installation de tableaux agencée de manière un peu spécifique, mise ensemble, mise en relation, hein, toutes ces œuvres. On est donc dans cet espace, on est devant. Vous aimez les jeux de langage, Bernard Gaube. Là, on en voit un peu, c'est-à-dire que nous, regardeurs, on est devant ce mur et on peut y voir quoi, en fait?
Alors, ce que vous pouvez découvrir sur le mur, au sens des images, hein. En fait, vous avez des éléments complètement figuratifs, qui sont des visages. Vous avez la présence de mots inscrits dans la peinture. Hein. Comme par exemple, si je pense à No Wonder, qui est un tableau bleu clair. Et en fait, dans ce tableau-là, les mots sont mis en bordure du tableau. Et donc, nous propose un hors-champ, hein, un peu comme dans un cadrage cinéma. Qu'est-ce qui se passe hors champ du tableau? À savoir que le tableau est mon dispositif de peinture préférentiel. Je peins essentiellement dans le tableau, je m'interroge sur le tableau, sur les limites du tableau. Donc il y a la question de l'intérieur et la question de l'extérieur. Et comment puis-je la traiter? Comment puis-je l'évoquer?
Alors, on a vu aussi Cité Grisée, donc plusieurs, effectivement, de vos tableaux qui sont exposés là-bas. Vous m'avez dit que vous faisiez souvent des citations dans vos tableaux, des citations à d'autres tableaux importants de l'histoire de l'art. Ça peut être du Caravage, du Velázquez, du Cranach. Donc, il y a certains de vos tableaux très contemporains qui peuvent évoquer des scènes de ces tableaux de grands maîtres. Donc, il y a cette relation à l'histoire plus ancienne, mais revisitée aussi d'une certaine manière avec un rapport assez direct à l'histoire contemporaine ou notre histoire, disons, de ces 50 dernières années ou un peu plus. Vous êtes née au Congo, à l'époque où c'était encore le Congo belge.
Exactement.
Il y a ce rapport chez vous très fort quand même à cet aspect civilisationnel, c'est-à-dire que vous vous interrogez sur qui nous sommes. D'ailleurs, l'exposition s'appelle « Je suis l'un d'entre eux ». Qui nous sommes, d'où on vient, où on va. Bon, on peut citer Gauguin plein de fois, évidemment, mais en tout cas, il y a cet ancrage de vous interroger. Aujourd'hui, vous vivez en Belgique, mais évidemment, ça fait partie de votre histoire aussi, cette histoire du Congo belge.
Alors, l'histoire du Congo belge, clairement, puisque dans ma génération, moi je suis né en 1952, il y a quand même beaucoup de Belges qui sont nés au Congo, puisque c'était les colonies belges. Donc ça reste prégnant dans mon histoire. Il y a une chose. Et alors, en fait, oui, choisir comme titre à l'exposition « I am one of them », moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'ai trouvé ce titre, que je l'ai éprouvé, mis au frigo, ressorti, etc., c'est qu'en fait, il y a une polysémie là-dedans. Alors, par exemple, une proposition de lecture, mais ce n'en est qu'une, c'est que je suis un peintre parmi les peintres. C'est-à-dire que, personnellement, je me suis jamais posé la question d'être d'avant-garde, pas d'avant-garde. C'est une question qui, au fond, ne m'intéresse pas vraiment. Et je sais très bien que j'ai eu des pères et des grands-pères en peinture. Et donc, un peu comme Cézanne, je vais aller au musée Copier pour démonter le moteur, pour voir comment je peux le remonter autrement après. Et comment après, ben aujourd'hui, évidemment, parce que je suis peintre, j'aime beaucoup la peinture occidentale du 11e au 20e siècle, mais je vis essentiellement aujourd'hui. Et je vis aujourd'hui en Belgique, je vis aujourd'hui en Europe qui se ferme à toutes les immigrations. Enfin voilà, je suis pas insensible, je suis pas enfermé tout seul dans mon atelier, en fait.
Oui, mais c'est vrai que, par exemple, vous évoquez aussi souvent l'histoire des Amérindiens, qui ont aussi été massacrés par Christophe Colomb à un moment donné. Donc, vous évoquez ces conquêtes-là. Il y a toujours ce rapport, quand même, à ces territoires qui ont souffert et de se dire « moi qui je suis, peut-être ».
Mais il y a ce questionnement-là, forcément, puisque moi, je suis un suprématisme blanc. Enfin, moi, je suis né blanc. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a jamais personne qui décide où il naît et pourquoi. Mais après, ben oui, effectivement, il y a la question où suis-je, qui suis-je, d'où viens. Enfin, bon, les questions que vous avez très bien formulées tout à l'heure. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il est important pour tout un chacun, ça, c'est ma conviction, adolescent, on peut s'imaginer qu'il s'est rien passé avant et qu'on est les premiers là, comme sur un territoire vierge, c'est très beau à ce moment-là. Et puis à un moment donné, mais je pense qu'il faut aussi, enfin, qu'il est intéressant de se questionner sur ses origines, d'où on vient, pourquoi je peins comme ça, qu'est-ce qui m'a appris à peindre, qu'est-ce que j'ai vu comme image, qu'est-ce qui fait que je peins aujourd'hui. Bon, donc. Voilà, c'est comme ça aussi que dans l'exposition, de fait, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des citations. Je pense que la copie, à un moment donné, j'ai enseigné, j'ai essayé d'expliquer ça aux étudiants, allez, copier, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, copier? Mais copier, ça veut dire essayer de rentrer, c'est vraiment comme démonter un moteur, c'est-à-dire que si je copie un objet de façon intelligente, je vais comprendre, je peux tenter de comprendre comment... Quels ont été les processus à l'origine de ? Et à ce moment-là, je peux peut-être peindre ce que je peux peut-être peindre. Parce que la question de la peinture aussi, ça c'est étrange. Un certain nombre de personnes, de regardeurs de la peinture, s'imaginent que le peintre sait ce qu'il peint. En fait, le peintre ne sait pas ce qu'il peint. Le peintre, quand il peint, il se met au monde, quelque part. Et il apprivoise aussi ses tableaux. Et il n'aime peut-être pas ces tableaux, parce que la question n'est pas de les aimer ou de ne pas les aimer. La question, c'est à un moment donné de se mettre en face de ça, hein, même si quand je fais une expo, je sélectionne, j'ai des critères, etc. Mais c'est de se mettre en face de ça et de dire, ah bon, ok, ben, peut-être que la peinture de Bernard Gaube, c'est ça, que je l'aime ou pas. Et ça dépasse cette question-là. C'est un peintre américain que j'aime beaucoup, mais j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, qui parlait beaucoup. Ah, Guston parle beaucoup de cette question-là. Je pense qu'il y a une très mauvaise attitude quand on crée, enfin mauvaise au sens pas moral, mais pas productive. Ce serait celle de, moi j'appelle ça, de se regarder faire. Je pense qu'à un moment donné, même s'il y a tout un processus réflexif, hein, il y a aussi action. je dirais. Action-réflexion, une espèce de jeu comme ça. Mais à un moment donné, il faut dessiner, quoi. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va dessiner ou se poser la question pourquoi on trace une ligne. À un moment donné, il faut tracer une ligne. Ou à un moment donné, il faut prendre une caméra et filmer. C'est ce que je fais dans les haïkus filmiques. En fait, je m'étais créé tout un processus. Le jeu était simple. Tous les matins, je filmais une demi-heure à 2 heures. Avec les images de la journée, je devais faire un montage de 2 à 3 minutes. Je devais donner un titre et terminé. Ça devait être fini comme objet, un peu comme un carnet de croquis. Et surtout, je ne regardais pas. J'ai fait ça pendant 60-90 jours. Et puis, j'ai ouvert. Alors là, j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à critiquer. Parce que sinon, c'est très inhibant aussi d'être toujours en relation avec « est-ce que je fais bien, pas bien ? Est-ce que je suis un bon peintre, un mauvais peintre ?» Ce genre de rapport que chacun peut vivre, hein, c'est pas la question. Voilà.
Merci beaucoup Bernard Gaube. J'ai une question aussi plus en rapport avec l'association qui vous accueille dans ses murs ici jusqu'à fin décembre. Donc cette association LAA qu'on découvre dans cette émission. En tant que membre, vous êtes un des 13 membres artistes de cette association. Pouvez-vous nous dire, parce que ça fait 2 ans maintenant que vous êtes affilié à cette association, quel regard vous portez sur le travail de cette association et quels sont les outils qui vous ont vraiment aidé, les outils donnés par cette association qui vous ont vraiment aidé?
Ben, on peut déjà poser les 2 lieux qui ont été mis à ma disposition. Ça, c'est très physique. Mais alors, on peut aussi parler de toute l'équipe qui a été mise en place. En tout cas, moi, ça continue à nourrir mes réflexions. Parce que nous avons beaucoup d'échanges aussi. Mais moi tout seul, entre guillemets, non, c'est même pas le bon mot. Je n'existe pas. Alors, je dis, c'est pas vrai.
Vous auriez pu choisir, par exemple, une galerie, peut-être, c'est un travail différent. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus?
Alors, ce que ça m'apporte en plus, c'est le côté quand même collaboratif. Alors, si vous évoquez la question de la galerie, moi, j'ai travaillé pendant 10-12 ans avec une très grosse galerie à Bruxelles qui s'appelle la galerie Rodolphe Janssen, avec qui je suis toujours en relation, mais plus de relation de travail. Et puis après ça, je travaille aussi avec une autre galerie à Bruxelles qui s'appelle la galerie Pierre Hallet.
Là, il y a un travail critique aussi que vous aimez.
Oui, beaucoup. Parce que donc je vous ai confié tout à l'heure que j'étais dyslexique. Ça n'est pas anodin.
Comme Spielberg, hein, vous m'avez expliqué.
Oui, comme Spielberg. Et ça n'est pas du tout anodin. J'ai exprimé tout à l'heure que la peinture me mettait au monde, mais tenter de réfléchir sur ce que j'ai peint et trouver les mots pour le dire, comme disait Marie Cardinal, ça c'est tout un chemin auquel je m'applique depuis une dizaine d'années. Ben, ça m'aide moi-même, en fait, à penser, quoi. J'essaie de me donner les outils. Les jeunes femmes avec qui je travaille là, Marie Cantos, Doria, bon, c'est des gens d'une quarantaine d'années. Bon, beaucoup, par exemple, ont un parcours universitaire. Moi, j'ai quitté l'école à 19 ans parce que c'était aussi plus comme ça dans ma génération, hein. Moi, j'étais père à 21 ans. Donc, j'ai eu une famille, j'ai travaillé, j'ai survécu. Bon. Donc, c'est un autre parcours de vie. Et c'est un parcours de vie qui m'a donné peu l'occasion, sauf depuis 2-3 ans, ce que je vous expliquais en marchant tout à l'heure, finalement d'étudier, de réfléchir, de me donner les mots, de me donner du temps pour écrire. C'est l'apprentissage. J'ai réprouvé il y a quelques mois un truc vraiment incroyable. Je sais pas si, enfin, je pense que chacun passe par là. Le tout début de la lecture, moi c'était Babar dans la collection Rose. En fait, ce qui est remonté il y a quelques mois, quand tout d'un coup je me suis rendu compte que je savais lire en anglais, c'est tout le plaisir que j'avais éprouvé enfant quand tout d'un coup tous ces signes sur la page sont devenus une histoire, quoi, un imaginaire. C'est formidable, ça.
Ben c'est très joli ce que vous venez de dire, Bernard Gaube, et on comprend bien aussi finalement la nécessité et l'importance d'un travail critique pour un artiste, hein, d'avoir aussi des regards extérieurs qui l'aide à développer son propre processus de création, ce que fait donc l'AA au jour le jour, avec donc au moins 13 artistes en ce moment. Et évidemment, je conseille du coup de découvrir votre exposition qui a lieu jusqu'à fin décembre, je crois, ici donc dans les deux lieux parisiens de l'association, aux 4 cités grisées, c'est au 3e étage, je crois. Voilà, on peut y rentrer assez facilement. Il y a des visites aussi, mais bon, toutes les informations sur le site internet de l'association. Et donc, à quelques pas, une rue plus loin, rue Moret, dans le deuxième lieu. Voilà, merci beaucoup Bernard Gaube.
Je vous en prie, je vous remercie beaucoup.